Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Moodstep. Je suis Johanna Kellen, opératrice de turbine à bonheur et votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Comme vous pouvez l'entendre, je suis sur le ponton du port de Port-Louis. Je vais rencontrer Roland Guinchard. C'est un spécialiste du lien au travail et il habite à 3 minutes de chez moi, ou en tout cas, il a son bureau sur son bateau au port. Je vous propose de le retrouver tout de suite. Merci de me recevoir dans votre bateau-bureau. aujourd'hui, nous allons parler de lien au travail et notamment de comment rester engagé au travail sans risque, parce qu'apparemment, il y a des risques au travail. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Alors, je suis de formation, je suis psychologue. Psychologue clinicien, c'est-à-dire qui s'occupe des personnes, et j'ai fait un diplôme de psychologie sociale, c'est-à-dire la psychologie qui s'occupe des groupes. Donc voilà, ce sont les deux principaux vecteurs de mes études. Après, j'ai fait des formations supplémentaires à l'audit social. Aujourd'hui, donc comme psychologue, je suis intervenu dans tous ces domaines-là, mais depuis 20 ans, j'interviens auprès des entreprises pour évoquer avec elles tout ce qui est lié, tous les problèmes qui sont liés au lien au travail.
Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait changer de sphère d'intervention, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'entreprise ?
Quand on est dans le domaine de la psychopathologie, à l'hôpital psychiatrique, on est dans des structures qui sont extrêmement lourdes, qui sont extrêmement dures à faire bouger, parce que c'est des structures d'État, c'est des structures de santé très compliquées. Et le problème lui-même de la psychiatrie, c'est un problème lourd. Donc, très très rapidement, on a fait un peu le tour de ce qu'il était possible de faire. Quand on ne peut pas réaliser d'autres idées qui viennent, voilà, on se dit qu'on a d'autres intérêts. Et puis, dans la santé publique où je travaillais, j'ai quand même découvert assez rapidement des problématiques de lien au travail qui se posaient très facilement. Et donc finalement, l'intérêt est passé, on va dire, de la psychothérapie, de pathologies mentales très graves, à vers les soignants.
Vers les soignants. Peur, ça veut dire que des gens qui ont des pathologies très graves sont dans le monde du travail.
Non, pas du tout.
Sont-ils dangereux?
Oui, il y en a certains, mais bon, ils sont.
Est-ce que vous avez écrit un livre sur le sujet?
Oui, j'ai écrit un livre sur le sujet, mais non, les dangereux sont les vraiment très 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 malades sont pas au travail. Mmh. Il y a une forme de maladie mentale qu'on appelle une psychosocialisée, effectivement, qui peut recouvrir des personnalités qu'on peut trouver de temps en temps dans le travail. Mais en tout cas, pour expliquer le passage, c'est que mon intérêt est passé des patients vers les soignants, parce que des soignants très engagés dans leur travail, dans des conditions de travail exceptionnellement bonnes, je dois le dire, parce que j'ai eu la chance de travailler dans des établissements qui, de ce point de vue, étaient très très intéressants, malgré ces conditions de travail exceptionnellement bonnes, et malgré le bonheur qu'il y avait à travailler pour ces gens-là, ils sont quand même été conduits à des actes qui étaient dangereux pour eux quand même, voilà. Et bon, ils ont déprimé, ils ont fait des tentatives de suicide. Et donc la question s'est posée, comment dans des endroits aussi bien pourvus en termes de conditions de travail, des gens engagés, intéressés et intéressants, sans véritable problème personnel, peuvent être conduits à des actes de ce type? Donc c'était un vrai
étrange. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Alors, j'ai rien constaté, je me suis posé la question. J'ai constaté des gens qui étaient pas bien, voilà. Et donc j'ai décidé de m'y intéresser. Alors du coup, ça m'a fait sortir de la psychiatrie, parce que je suis allé voir ailleurs aussi comment ça se passait.
Ouais.
Et c'est là, il y a 20 ans, que vraiment j'ai commencé, j'ai créé des associations autour de ça. Des associations comme Institut Psychanalyse et Management, par exemple. Voilà, c'était, qui existe toujours, mais que j'ai quitté. Mais, alors, du coup, j'ai cherché, c'est là que j'ai commencé à chercher, mais quel est le lien profond entre une personne et son travail, qui pourrait expliquer que des paradoxes pareils puissent exister. Alors, du coup, on voit bien que c'est un problème qui peut paraître très, très technique. Enfin, je veux dire, c'est le scientifique avec son microscope qui peut voir jusqu'au tréfond comment se comporte la cellule, etc. Enfin, c'est ça. J'ai eu l'impression de faire ce travail-là un petit peu au plan psychique, psychanalytique surtout. Et j'ai découvert des trucs qui étaient en fait étonnant d'une part, mais qui pouvait aussi être très utile et qu'il fallait absolument partager avec des gens qui étaient concernés par ce type de problème, en particulier les managers. Donc là, depuis 20 ans, mon travail, c'est d'apporter des éléments psychologiques qui sont traditionnellement compliqués, dont on dit qu'ils servent à rien, et tout ça, d'en faire des choses utiles, des choses qui soient appréhendables rapidement et qui puissent surtout s'inscrire dans le lieu du travail pour améliorer les choses, à la fois la question de la performance et la question du bien-être au travail.
Alors là, excusez-moi, moi j'ai besoin de choses concrètes. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui fait que une personne qui a toutes les conditions, parce que on voit aujourd'hui les entreprises déployer plein de moyens pour le bonheur au travail, le bien-être au travail, et donc ça voudrait dire on pourrait mettre tout ça en place et avoir être excellent dans ces domaines et pourtant avoir des gens qui souffrent profondément.
Bien sûr. C'est là qu'il faut connaître la vraie nature du travail, parce que pour des raisons, on va dire, politiques et sociales, les représentations habituelles qu'on a du travail ne sont pas les bonnes. Globalement, il y a sur le travail, de façon très classique, un discours plutôt négatif. Alors on sait bien, l'étymologie de travail, c'est Trévalium, je vais pas refaire tout ça. Mais de fait, quand on prend son microscope pour aller voir quelle est la nature du lien de travail, on découvre que le travail, ça n'est pas une contrainte qui s'exerce sur quelqu'un.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, on pourrait dire, ah, bah oui, le travail, c'est une contrainte. Comment ça va? Comme un lundi? Oh là là, c'est dur. Voilà. C'est ça, là.
Oui.
Bon. Ça n'est pas que ça, le travail. Bien sûr, ça l'aide d'un certain besoin, parce que faut bien travailler pour vivre, on est bien obligé. Mais le fantasme, l'idée fausse, c'est, si je me passais du travail, ça irait beaucoup mieux. Alors, donc, on va lever la contrainte et ça va être du progrès social. Mmh. C'est ce qu'on appelle, ça, l'approche ergonomique. Finalement, d'essayer d'adapter le travail à l'homme. C'est la première chose. Mais il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est mais comment expliquer quand même les paradoxes, puisque plus ça va, plus on lève les contraintes, on passe de 40 à 35 heures par exemple, c'est une contrainte levée, et au final ça va beaucoup plus mal, puisque les gens disent bah non, j'ai plus de temps pour moi, mais je suis pas bien au plan moral maintenant, vous comprenez, c'est ça n'a pas de sens tout ça. Alors, c'est là qu'on comprend plus rien. Donc il faut découvrir que la vraie nature du travail, eh bien, ce n'est pas d'être un objet social de contrainte, c'est d'abord une dimension originaire de l'individu. Dans la vie, il y a deux choses importantes. La première, c'est l'amour, et ça sert à la perpétuation de l'espèce, entre autres. La deuxième, c'est le travail, et ça sert aussi à la perpétuation de l'espèce. Donc, ça voudrait dire que de la même façon que l'amour, mais pas du tout sur le même mode, évidemment, heureusement. Des fois, ça se mélange, enfin, c'est autre chose. Mais pas du tout sur le même mode. Le travail est aussi important que la question de l'amour. C'est-à-dire que le lien au travail est aussi important que la question du lien avec les proches, avec la famille, c'est aussi important que ça.
J'ai besoin de redéfinir le travail parce que quand vous dites ça, par exemple, je suis passé aux 35 heures, j'ai plus de temps, je peux avoir des activités, voilà, je suis passionné, par exemple, par la voile, je vais faire plus de bateaux. Est-ce que je suis obligé de m'accomplir par le travail? Qu'est-ce que vous appelez travail et pourquoi ce serait le deuxième sur le podium?
L'amour, c'est du désir comme il s'exprime à l'égard d'un autre, le partenaire, et de son manque supposé.
Non, c'est de son quoi supposé?
De son manque supposé. Ah. Tu es ma moitié d'orange, sans toi ma vie ne serait rien. Que serais-je sans toi, car
tant de déclarations, vous me gênez, je rougis.
Oui, je vois bien. C'est fait pour ça. Mais définition du travail. Je dirais, le travail, c'est du désir aussi, comme il s'exprime à l'égard des autres et de leurs attentes supposées. Et très souvent, les premiers autres, c'est les parents qui ont une attente.
D'accord.
Ça. Alors évidemment, ce qui crée choc, c'est qu'on parle du désir. Des désirs de travail. Comme me disent des chefs d'entreprise, viens chez moi, Roland, tu vas voir le désir de travail. Je vais te le montrer, moi, le désir de travail. Bien sûr, je sais bien. Alors, il y a un malentendu sur la question du désir. Le désir, c'est l'énergie psychique pour un psychanalyste. C'est pas le désir, j'ai envie de... C'est pas ça du tout, le désir. Le désir, c'est d'abord de l'énergie disponible. Et donc, pour un individu, il y a de l'énergie disponible pour l'amour. Mais ça, c'est la perpétuation de l'espèce qui l'oblige. Et il y a de l'énergie disponible pour le travail, mais ça, c'est la perpétuation de l'espèce au sens collectif qui l'oblige. Entre les deux, il y a une zone, Elle n'est pas désirante, elle. Il y a une zone qui s'appelle la zone du jeu. Alors, le jeu, c'est les loisirs, le temps libre, le sport, enfin, voilà, toutes sortes d'activités qui sont des activités intermédiaires et qui peuvent consoler si ça va pas d'un côté ou de l'autre. Quand ça va pas dans l'amour, je me console, hein. Et si ça va bien dans les deux, si ça va bien dans l'amour, si ça va bien au travail, cette zone-là est une zone où on peut exprimer des choses qu'on ne pourrait pas exprimer ou dans l'amour ou dans le travail. Donc, c'est une troisième partie, mais qui n'est pas aussi...
pulsionnelle, en fait. Elle est moins pulsionnelle que l'amour.
Beaucoup moins. Donc, le travail, donc la découverte, d'accord, c'est ça. Le travail est une dimension pulsionnelle. L'intérêt à ce moment-là, c'est que la dynamique pulsionnelle, les psychanalystes l'ont étudié depuis longtemps, seulement du côté de l'amour. Hein. Ils ne sont jamais allés du côté du travail. Donc, moi, j'ai décidé d'essayer de voir quels pouvaient être éventuellement des parallèles de fonctionnement entre cette dimension pulsionnelle qu'on a beaucoup étudiée dans ce domaine-là, en matière de psychologie, mais est-ce qu'on peut l'appliquer au travail ? Et on découvre des choses. C'est-à-dire qu'on est lié au travail, non pas seulement par l'obligation, parce que très vite, derrière la recherche de la satisfaction des besoins, il y a de la demande, ça me plaît, puis il y a du désir, j'aurais envie que ça me plaise plus. C'est toujours comme ça. Donc sur la base du besoin, hop, on voit qu'il y a tout de suite des choses qui vont apparaître dans le travail et qui sont de l'ordre la demande, comme on dit, et du désir, peut-être. C'est-à-dire quelque chose qui s'exprime.
Alors, si je reprends votre exemple de cette personne qui travaillait, qui avait les bonnes conditions et qui, pourtant, est au fond du gouffre. Je ne sais pas ce qui lui arrive à cette personne.
Elle a fait une tentative de suicide.
Par exemple, tentative de suicide, comment on l'explique ? Elle n'a pas de pulsion au travail ou elle est...
Si, sa pulsion au travail a été abîmé par un certain... Après, si on rentre dans les détails, on peut aller effectivement très très loin. Mais fondamentalement, on peut dire que pour toute personne, son lien au travail est représenté à l'intérieur de lui. Mmh. Hein, c'est pas son poste, c'est pas sa fonction, c'est pas sa fiche de poste. À l'intérieur de lui, est représenté par ce qu'on appelle l'identité professionnelle. L'expression du travail comme désir ou comme pulsion, l'expression un peu visible, parce que tout ça c'est inconscient évidemment,
oui, bien sûr,
mais ce qui apparaît le plus visible, c'est l'identité professionnelle. C'est-à-dire que il y a une image de moi au travail que je dois absolument préserver. Malgré les conditions de travail exceptionnelles, il peut y avoir des choses qui atteignent l'identité professionnelle. Alors, un exemple.
Oui. J'aime bien les exemples.
Ouais, j'aime bien les. Alors, mais ça dure un peu plus longtemps. Un exemple. Un ingénieur dans une grande entreprise de télécommunications que je ne citerai pas, mais bon, tout le monde. Voilà, un ingénieur, il me raconte une histoire. Il me dit, j'étais là, sur mon ordinateur. Arrive un collègue pour une histoire de fontaine à eau. Il me dit, tu peux me prêter une bonbonne ? Vous voyez le genre de truc. Et puis, en repartant avec sa bonbonne, il jette un œil sur l'application que j'étais en train de travailler, qui était très très compliqué. Hein. Compliqué, puis il me dit ah, tu fais comme ça toi. Alors, non, mais c'est rien.
Oui, c'est rien.
L'ingénieur dit, bah oui, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc, son interlocuteur lui dit, ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu ça. Mais oui, d'accord, ok. Bon, bah merci pour la bonbonne, et il s'en va. Donc, il ne s'est rien passé. Alors vraiment, si c'est ça, des risques psychosociaux, on n'est pas sûr.
Exactement,
hein,
c'est ce que je pensais.
C'est d'ailleurs ce que pense mon interlocuteur quand il me raconte l'histoire. Il me dit, sur le coup, bah, j'ai haussé les épaules, j'ai continué mon boulot comme avant. Sauf que je pensais que ça allait être comme avant, mais on commençait à se poser des tas de questions que j'avais pas décidé de me poser, c'est-à-dire, il y aurait moyen de faire autrement, j'espère que je suis pas devenu obsolète. Et ça m'a tellement énervé, j'ai fermé mon ordinateur, je suis allé faire des réunions, je suis allé faire d'autres travaux, je suis allé voir mon chef, etc. C'est oublié. Le soir, je rentre chez moi, ma femme me dit, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Sauf que tu sais, un tel, il est rentré dans mon bureau, et tu sais ce qu'il me dit, ce mec-là? T'es complètement obsolète, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Alors, il dit, ma femme ouvre des grands yeux, elle me dit, mais c'est grave alors quand même. Et là, j'ai dit non. Je découvre à ce moment-là que j'ai pas du tout raconté l'histoire comme elle s'était passée. Et pourtant, je suis pas du genre à exagérer les choses.
Donc,
j'ai dit à ma femme, en raison, je la vois effrayée, j'ai dit, non, mais rassure-toi, non, j'exagère un peu, ça c'est pas tout à fait passé comme ça, mais ça m'a énervé, tu vois. Mmh. Ça m'a vachement énervé. C'est là qu'on perçoit ce que c'est que l'identité professionnelle. Une image toujours un petit peu idéale, toujours construite de l'enfance et tout ça. C'est ça l'identité professionnelle, alors qui est la résultante du désir de travail, hein, de l'énergie disponible pour ça, qui prend cette forme-là, voilà, très particulière, mais qui est très fragile, qui peut être atteinte par n'importe quoi. Et même un type qui est bien au travail, qui gagne bien sa vie, qui a un super boulot, qui est dans un environnement professionnel formidable, etc. Eh ben, son identité professionnelle, très très sensible, ce qu'on appelle le narcissisme professionnel, peut être atteinte par n'importe quoi. Alors, bon, là, c'était vraiment un exemple extrême pour illustrer cette chose-là. Mais c'est le genre de choses qui peuvent se passer de façon beaucoup plus grave, quand on dit à quelqu'un, mais t'es nul, par contre, ça. Ou quand on laisse entendre à quelqu'un que... Bon, on te maintient dans cette boîte, mais franchement, ton poste serait plus utile à quelqu'un d'autre, vous voyez. Sans le dire, faut voir l'état des personnes à ce moment-là. C'est-à-dire que, de fait, tous autant qu'on en est, on est extrêmement sensible de l'identité professionnelle. Mmh. Sauf que l'identité professionnelle, c'est pas du tout connu. On sait pas qu'on a tous notre identité professionnelle.
Donc tout se joue dans la relation, puisque là, on parle pas de conditions de travail, on parle de relation, et donc, dans chaque interaction, il y a, on touche à ces identités professionnelles.
Alors, il y a plusieurs choses peuvent toucher l'identité professionnelle. D'abord, le sujet lui-même.
Il s'auto-sabote.
Oui, bien sûr, il peut s'auto-saboter, ou il peut se dire, oh, putain. Vraiment, qu'est-ce que je m'ennuie ici? De toute façon, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais pas travailler à la sécurité sociale. Je voulais être aviateur. Moi, absolument, bon, avec ma vue, j'ai pas pu, etc. Et puis, au final, voilà. Mais j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie d'être là. Et donc, chaque fois que quelqu'un lui dit, ça va, est-ce que tu es d'accord pour prendre ce dossier-là? L'impression que j'ai, c'est, putain, non, j'ai pas du tout envie de prendre ce dossier. J'ai envie de partir en avion. Voilà. C'est ça qu'il a envie de dire. Donc, le sujet déjà lui-même. Ouais. Ou alors, simplement, pour des raisons plus personnelles, peut-être de toute façon, mes parents ont toujours dit que j'étais nul, et puis c'est vrai, je suis nul, finalement. Enfin, ouais, il peut y avoir... Mais le sujet peut être déjà, à l'origine, lui, d'accord, d'une atteinte de l'identité professionnelle. La deuxième possibilité pour l'atteinte de l'identité professionnelle, c'est justement dans la relation avec les autres. Que des autres... Alors là, le type qui était venu faire une remarque, tu fais comme ça toi, c'était très innocent. On peut dire que c'est plutôt le sujet lui-même qui s'était fait mal tout seul. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'entreprise des relations qui peuvent beaucoup abîmer l'identité professionnelle. Quand vous êtes en face d'un responsable injuste, par exemple, c'est étonnant, hein, c'est ton identité professionnelle qui se dégonfle à toi. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit des remarques injustes...
C'est pas si étonnant que ça.
Pas du tout. Mais il y en a certains qui sont de grands prédateurs de ce point de vue-là.
Oui, parce que vous avez fait un livre là-dessus. Dans l'entreprise,
il y a des prédateurs de l'identité professionnelle. Ce sont les personnalités difficiles.
C'est quoi une personnalité difficile?
Alors, une personnalité difficile, classiquement, c'est quelqu'un dont le comportement est inadapté à la situation de travail. Ça peut arriver à tout le monde, c'est pas un critère majeur, mais enfin c'est un critère nécessaire au départ. Conduite inadaptée à la situation de travail, de façon répétitive, sans qu'on connaisse la raison. Même le sujet lui-même peut pas dire la raison. Alors là, on dit, mais pourquoi il fait comme ça? Voilà, ça devient difficile, entraînant une gêne réelle pour les autres, et une gêne pour la performance de l'entreprise. C'est-à-dire, globalement, le gars, il fait pas comme il faudrait faire, comme on a l'habitude de faire, comme on lui a expliqué qu'il fallait faire. Il le fait tout le temps, malgré nos explications. Quand on lui dit quelque chose, mais enfin, pourquoi tu fais comme ça? Il dit, j'en sais rien, moi, c'est moi qui ai raison, et en plus, ça emmerde tout le monde, et en plus, il fout l'entreprise par terre.
On a discuté il y a deux jours ensemble, on s'est rencontrés il y a deux jours, et ce qui est étonnant, c'est que dans l'entreprise, on identifie ces personnalités difficiles. Ah non, on ne sait pas les identifier.
Ah ben non, parce que...
Parce qu'on sait quand on travaille dans un service.
Parce que très souvent, la difficulté qui vient, c'est notre propre culpabilité. On n'ose pas dire de quelqu'un, il est difficile parce qu'on pense que ça va être un jugement. Alors, en fait, c'est juste identifier un problème. Mais on pense que c'est un jugement. Oui, qui suis-je moi pour dire que c'est une personnalité difficile? Après tout, c'est peut-être moi qui suis difficile.
Ou qui comprend rien.
C'est peut-être moi qui comprend rien. Ça y est, je suis nul. ça y est, je suis dépassé, ça y est, je suis has-been. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on se dit. Et ça, ça va nous empêcher d'avoir... c'est pas pour juger les gens, c'est pour jauger la situation qu'il faut avoir cette connaissance. Ouais. Et donc, très souvent, puis en plus, c'est quand même une connaissance qui est pas accessible facilement. Moi, j'ai fait beaucoup de vulgarisation autour de ce sujet-là, j'ai écrit des livres là-dessus, justement pour ça. Alors après, il y a des personnalités dangereuses aussi.
Oui, mais alors, parce que je crois en avoir croisé une il y a quelques mois, et justement, c'était quelqu'un qui était voué à un grand avenir dans cette société, et donc qui était promu. Moi, je suis extérieure à la société, donc elle peut pas me nuire, mais j'ai vu par les comportements que ça me paraissait assez évident. Comment ça se fait? Qu'est-ce que peut faire le management? C'est-à-dire que pourquoi ces gens-là sont promus quand même? C'est qu'ils sont pas identifiés par le management?
Ben parce que les personnalités plus dangereuses, des petits paranoïaques ou des conduites perverses, par exemple, c'est très très difficile à identifier. On identifie que les effets. C'est-à-dire des gens, les autres autour, on n'est pas bien. Mmh. Et on se dit, pourquoi je suis pas bien? J'arrive pas à ça. On n'arrive pas à le savoir. Donc, il y a des choses à apprendre pour pouvoir identifier ce genre de personnage.
Alors, on parle d'identification. Vous avez développé un outil qui s'appelle IXA. Est-ce que, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, nous expliquer comment, parce que ça paraît extrêmement complexe et surtout.
Non, c'est pas.
C'est-à-dire que ça paraît être des cas individuels,
oui,
à chaque fois.
C'est pas ça.
Donc, ça veut dire qu'il faut rencontrer et aller.
Non, sûrement pas. Parce que je suis pas allé jusqu'au bout. La première source, c'est le sujet lui-même qui peut se faire du mal à son identité professionnelle. La deuxième source, c'est les autres peuvent. D'habitude, ça se passe très bien. Mais bon, de temps en temps, on tombe sur un gros prédateur de l'identité professionnelle. Et ça, c'est dans les relations que ça ne va pas du tout. Personnalité difficile, personnalité dangereuse. Puis il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui tombent tout seuls. Hein, bon. Et puis, il y a aussi les conditions de préservation de l'identité professionnelle que l'entreprise doit mettre en œuvre. L'entreprise doit mettre en œuvre un certain nombre d'éléments qui vont faire que l'identité professionnelle, de façon globale,
peut être préservée.
Alors ça marche pas à tous les coups parce que c'est un outil très général, mais qui va permettre de connaître à quel endroit il pourrait y avoir des risques. Alors les risques, ils apparaissent quand le discours n'est pas très clair, quand l'autorité n'est pas très équilibrée, quand le projet d'équipe n'est pas très intéressant et quand la relation avec le manager de proximité a du mal à s'établir de façon positive.
Okay.
Bon, ça, c'est ces points-là sont des points absolus de mesure. Alors, la mesure doit intégrer d'autres éléments. Nous, on a fait apparaître au fil des ans, et ça a l'air d'être suffisamment stabilisé pour qu'on puisse en avoir une certaine certitude, 21 critères qui vont déterminer que toutes les conditions sont là pour que l'ambiance soit bonne. Donc, si elle n'est pas bonne, c'est qu'il y a un problème ailleurs, une personne ou un individu. Mais globalement, il faut pouvoir en permanence évaluer les conditions pour que l'ambiance soit bonne. Alors, on peut voir à certains moments des carences. Des fois, il y a des carences dans le discours. C'est pas la faute à l'entreprise. Ça veut dire que sans le savoir, finalement, on pourrait émettre un discours qui n'est pas très clair. Non, tout va bien aller. L'année prochaine, on aura un nouveau produit.
Donc là, il y a un point d'action. Donc, par exemple, éclaircir le discours.
Et très souvent, c'est un travail qu'on fait avec le comité de direction. La question de l'autorité doit être équilibrée. C'est-à-dire que, au fond, on sait que l'autorité d'un manager, elle est rassurante. Oui. À une condition, c'est qu'il reste aussi à l'écoute. Donc, il faut apprendre au manager à savoir faire comment j'occupe le terrain tout en restant... Le but, c'est pas de faire de la morale, c'est pas de dire faut être gentil.
Ouais.
Le but, c'est de savoir quels sont les critères et de les respecter. Après, chacun son style, hein. Ça change pas le style des gens. J'ai tendance à dire, surtout changez rien, mais en toutes circonstances, rappelez-vous, le discours doit être le plus clair possible, faut qu'il y ait un effort là-dessus. L'autorité doit être le plus équilibré possible, le projet d'équipe doit être le plus intéressant possible. Donc, la problématique pour tous les managers, c'est, mais comment voulez-vous que je sache ça?
Mesurer.
Voilà, il y a un système de mesure, il est simple, il est rapidement rempli, moins de 2 minutes
donc
30.
Donc ça c'est IXA,
ça c'est ce qu'on appelle IXA.
Et ça consiste en quoi IXA?
IXA, ça consiste à poser la question aux gens où ils se situent, non pas s'ils sont contents, s'ils sont satisfaits, tout ça, c'est-à-dire où vous vous situez par rapport à telle problématique. Bon, les problématiques, c'est toutes les problématiques qui vont définir l'ambiance, hein. Le discours, l'autorité, le projet, comme je le disais, la relation avec le manager, la relation avec le travail, le lien avec l'entreprise, les conditions de travail aussi, parce que quand même, on ne peut pas les oublier complètement.
Oui.
Il y a un vécu des conditions de travail qui doit être analysé, qui doit être éprouvé. Donc, il y a ces 7 thèmes-là, dans lesquels il y a 21 critères, qu'on va pouvoir en permanence mesurer sur, en général, le relevé pour chacun se fait sur smartphone. Voilà, alors, les conditions, évidemment, préalables de confidentialité, de contrat tripartite entre l'entreprise, les salariés et le cabinet bornent de façon extrêmement forte cette question de la confidentialité. On dit, nous, confidentialité, mais pas d'anonymat. Parce qu'on a besoin de connaître de qui dit ça. Mmh. Voilà. Donc, c'est nous qui préservons l'anonymat, mais vis-à-vis de nous, il n'est pas préservé.
Donc, juste pour que je visualise, c'est une sorte de tableau de bord où une fois, deux fois, je ne sais combien de fois par an, les gens ou les salariés répondent à quelques critères et c'est là qu'on voit s'il y a un problème ou pas, on identifie où et on pose des points d'action là-dessus.
On identifie sous une forme un petit peu, faut vraiment que l'outil soit un outil utile. Pratique, facile, voilà. Et donc, on le présente, nous, sous forme d'une maison, avec les 21 fenêtres qui sont ou dans le rouge, ou dans le vert, ou dans le gris. Voilà, c'est il faut vraiment, c'est toujours la même question, il faut vraiment que la puissance des outils d'ordre psychologique puisse être sans effort démesuré accessible à tous les managers. Donc on fait un travail de pédagogie sur le mode d'une maison dont les fenêtres décrivent tous les critères.
Et là, Monsieur Garchard me montre une maison sur son PowerPoint.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Et donc, en fonction des couleurs, si ça devient rouge ou vert,
c'est pour simplifier, parce qu'il y a des calculs extrêmement précis qui sont compensés, etc. Mais on peut faire même des études comparatives. On voit bien que dans le lien à l'entreprise, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ici, il y a la fierté vis-à-vis de l'entreprise qui n'est pas tout à fait la même.
D'accord.
Donc, et ça, le manager, 2 minutes 30 pour remplir, les résultats arrivent chez nous, ils sont traités, on peut restituer aux gens de l'équipe et au manager les résultats immédiatement, c'est-à-dire qu'on peut en discuter dès le lendemain en disant, fait la mesure la mesure itérative, là au bout de 6 mois c'est super, là il y a des bonnes nouvelles. On ne dit pas, voilà votre note. On dit, votre situation a évolué et je pense que là se profile quelque chose qui est lié aux événements qui vont arriver ou qui sont arrivés. Voilà. Donc c'est vraiment un outil de discussion, de pilotage par le manager lui-même de l'ambiance qu'il y a dans son équipe.
Et c'est un outil continu en fait.
Ça peut être un outil continu. Il y a des entreprises qui nous demandent de faire des mesures ou une partie de ces mesures.
Parce que ça devient intéressant
tous les mois.
Justement de voir l'évolution.
Bien sûr, c'est le seul moment où c'est intéressant. En soi, faire une mesure une fois, comme on fait dans les questions sociologique de satisfaction, on fait la mesure une fois, 57% des gens se sont déclarés satisfaits. En réalité, ça ne veut rien dire.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même le reste qui n'est pas satisfait, déjà. Et puis, il faudrait savoir pourquoi les uns se déclarent satisfaits, les autres. Donc là, on n'a pas du tout de mesure de satisfaction. On a juste une mesure qui va permettre l'analyse par le manager des raisons pour lesquelles ça se présente comme ça.
Ok, donc je vous propose de passer au questionnaire avec la première question qui est comment on apprend de ses erreurs ou de ses échecs et notamment si vous pouviez nous raconter une histoire assez concrète de quelque chose que vous auriez pu vivre comme un échec mais qui vous a appris beaucoup.
Vous avez vu à quel point je peux être passionné par le sujet. Je peux être comme ça 24 heures sur 24. Hein, c'est même d'en rêver. Enfin voilà.
Ah, votre femme tient le coup.
je peux m'en récupérer. Elle a son travail. Globalement, qu'est-ce que j'ai appris de mes erreurs? L'erreur, c'est ça justement, c'est-à-dire d'être tellement passionné par l'idée que j'en ai oublié d'écouter les autres. Donc finalement, sur le plan commercial, pendant un moment, ça marchait pas bien. Les gens me disaient, c'est super intéressant, mais je sais pas, je vais réfléchir. Donc en fait, je me suis rendu compte à quel point, c'est bien d'être passionné, d'être hyper expert dans un domaine qu'on aime beaucoup, mais faut laisser tout ça à la porte. Et la première chose à faire, c'est vraiment d'écouter les autres. Donc depuis que j'ai pigé ça, ça a été très dur. C'est-à-dire, c'était très très dur, mais de fait,
étonnant pour un psychanalyste qu'on voit écouter son patient sur le divan pendant des heures.
Pendant des heures et pendant des heures, un psychanalyste, en réalité, il n'écoute pas. Hein. Il a l'attention flottante. Il attend qu'un mot le touche. Donc, il peut écrire un livre de cuisine.
Ça, c'est la révélation.
Ça, c'est la caricature. Non, mais c'est la caricature.
Ok. Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique, un outil qui vous a particulièrement aidé dans votre carrière?
Oui, la technique, l'outil, c'est un outil conceptuel, c'est celui de la psychanalyse. Parce que, bon, la psychanalyse, c'est passé de mode, hein, maintenant. Puis on dit, ça sert à rien, ça coûte cher, c'est
ça
vraiment.
Dure 10 ans.
Sauf que, je pense que c'est la faute des psychanalystes, qui n'ont jamais écouté les autres. Et en particulier, ils n'ont fait aucune espèce d'effort de transmission, de ce qui est fondamental dans la psychanalyse. C'est resté dans un cercle parisianiste, dans quelques pays, ça s'est développé un peu, mais, évidemment, des psychologies et des psychothérapies beaucoup plus concrètes ont fait florès par ailleurs. Mais ça, c'est la faute des psychanalystes qui sont restés enfermés dans un langage abscon, jamais partagé, etc. Alors que la puissance, ça existe encore malgré tout ça, la psychanalyse, parce que ça a une puissance conceptuelle, ça apporte une facilité à comprendre les choses qui est vraiment extraordinaire, à condition de faire l'effort de partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Bah oui, en passant en écoutant plus et en passant du côté de l'entreprise. Troisième question, quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Pour être un bon manager, à mon avis, il faut comprendre une seule chose. Le travail est quelque chose de vivant. Le désir, c'est quelque chose de vivant. Mmh. Hein. Donc, tout le travail, c'est du désir. Il faut considérer le travail comme quelque chose de vivant, c'est-à-dire qui serait plus à se développer comme une plante, par exemple. Donc, moi, je dis souvent au manager, une plante, c'est pas vous qui êtes la photosynthèse, hein, c'est pas vous qui allez l'aider à pousser, hein, c'est pas la peine d'essayer d'inventer de la motivation. Par contre, si vous avez décidé de prendre soin d'une plante, vous devez réfléchir aux conditions qui la préservent. Il faut qu'elle ait de l'eau, de la chaleur, des nutriments, etc., mmh. etc. Donc, il n'y en a pas beaucoup des choses nécessaires, mais il y en a 4. Pour le travail, c'est pareil. Quelqu'un est au travail, bah laissez-le. De toute façon, il a envie de travailler. Il y a quelque chose en lui qui est de l'ordre du désir et qui va le pousser à travailler. Donc, arrangez-vous pour dégager le terrain et puis assurez-vous qu'il y a de l'eau, qu'il y a de l'air, c'est-à-dire que le discours soit clair, que l'autorité soit équilibrée, que le projet soit intéressant, que le manager puisse de temps en temps lui poser une question. Mmh. Hein, voilà. Donc, c'est cette idée-là que je pense qu'il faut retenir.
D'accord. Est-ce qu'il y a un livre que vous conseilleriez à la lecture?
Alors, moi, j'en ai écrit, évidemment, mais c'est pas celui-là.
Ouais. On mettra la liste dans l'article, d'ailleurs,
ouais.
du blog.
D'accord. Et puis, il y en a un en préparation, précisément, qui apporte au manager tout ce savoir-là, qui s'appelle « Un manager, 4 dragons et des montgolfières ». Ah, ça, c'est pour le teasing, je ne dirais pas pourquoi. Mais bon, c'est pour amener des instruments pratiques au manager pour D'accord. qu'il puisse précisément respecter l'identité professionnelle. Voilà, c'est ça. Sinon, faut lire. Si on est intéressé, faut lire Freud. Non, pas. Faut pas lire Freud. Faut lire une introduction à la psychanalyse, au moins pour s'habituer un petit peu à ce concept-là. Parce que ça part quand même d'une idée qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en nous et qui sont inconscientes. Hein. Et y compris par rapport au travail, il y a des choses qui m'échappent. C'est celles-là qui font le paradoxe, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, etc. C'est que mine de rien, ils peuvent être respectés ou ils peuvent être atteints sans que personne ait eu l'intention de les atteindre ou de les soutenir.
Et dernière question, est-ce qu'il y a une citation qui pourrait définir, c'est un grand mot parce qu'on va pas mettre définir ce que vous faites ou ce en quoi vous croyez dans une citation, mais qui vous inspire en tout cas?
Le travail doit rester une aventure pour être intéressant. Et il faut le préserver des risques pour que ça dure longtemps. Je sais pas qui a dit ça ou si je m'en suis inspiré pour refaire la citation à ma sauce, mais j'aime beaucoup celle-là. Et puis l'autre, c'est le slogan de notre cabinet qui consiste à dire, d'abord, il s'appelle Montgolfière Management, ouais. pour voir les choses de haut et tranquillement, et puis surtout de haut, on voit plus loin. Et donc, je pense que c'est ça qui doit être utile à l'entreprise et à tous les gens qui y travaillent, que quelqu'un quelque part voit les choses de haut et plus loin et pour pouvoir avancer.
Alors je prendrai ça, vos livres, la citation, le livre que vous conseillez, je le mettrai dans l'article du blog. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous?
Sur internet, le site Montgolfière Management en un seul mot. www.lepetalpsychiatrie.com.
Vous êtes aussi sur Twitter, je crois.
Je suis sur Twitter, j'ai un blog qui s'appelle Ça va le boulot, voilà, avec des tas d'articles. Voilà, je suis un petit peu sur tous les réseaux, évidemment. Ouais. Hein, c'est Montgolfière Management ou Roland Gachard sur Google, et puis on devrait trouver 2-3 trucs. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup.
Ah, de rien, c'est moi qui vous remercie.
Merci d'être si près, qu'on puisse faire ici dans ce bateau. C'est formidable d'avoir découvert que juste à 3 minutes de chez moi, ouais, il y avait un expert du lien au travail.
C'est
la magie de la vie, vraiment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, malgré les quelques problèmes de son liés à l'environnement et aussi à ma perte d'expérience, puisque je me suis arrêtée pendant 6 mois. 6 mois d'aventure, 6 mois où j'ai pu aller réinterroger le pourquoi je faisais les choses et faire le plein d'énergie pour redémarrer cette saison. La semaine prochaine, on se retrouve avec un podcast sur la confiance en soi et les talents. D'ici là, passez sur iTunes, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et laissez-moi un commentaire, un message, une petite note, des petites étoiles. C'est toujours encourageant, vous pouvez même m'indiquer quel sujet vous voudriez que je fouille, que j'aille explorer. Merci d'être fidèle à ce podcast, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à toutes et à tous.